France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le parrain de Francis Ford Coppola. À l'évocation de cette saga familiale, des images et des sons surgissent immédiatement dans l'esprit de ceux qui l'ont vu. Difficile en effet d'oublier la musique de Nino Rota, les mimiques et la voix de Marlon Brando et le jeu d'Al Pacino pour ne citer que. Mais rien ne prédestinait cette adaptation du roman éponyme de Mario Puzo, sorti en 1969, à devenir un chef-d'œuvre du cinéma. Francis Ford Coppola ne voulait pas faire ce film de commande. La Paramount voulait un petit budget pour un long métrage tourné en studio. Les producteurs ne voulaient ni de Marlon Brando ni d'Al Pacino. La mafia italo-américaine new-yorkaise voulait stopper le tournage. Et pourtant, malgré toute cette adversité, Le Parrain sort sur les écrans américains le 22 mars 1972. Succès critique immédiat et carton au box-office. Produit avec 6 millions de dollars, il en rapporte 244. Tragédie grecque et drame shakespearien, Le Parrain séduit les foules. Quand le projet du Parrain 2 a pris forme, Coppola a proposé de le confier à un autre jeune réalisateur, Martin Scorsese. Charles Bludorn, PDG de la Paramount, lui a répondu « Quand tu obtiens la licence pour faire du Coca-Cola, tu dois faire du Coca-Cola. » Bon, dit comme ça, il ne pouvait plus refuser l'offre. Autant dire qu'il ne l'a pas regretté. Notre invité aujourd'hui, Frédéric Foubert, journaliste au magazine Première et co-auteur de l'ouvrage Les Sopranos, une Amérique désenchantée, publié en 2017 aux presses universitaires de France. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Adrien Mora, rédaction en chef Franck Cognard, chargé programme Rebecca Donnante, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Aspetta, Fred, I'm going to buy some fruit.
Okay, Papa.
Merry Christmas. I want some fruit, man.
12 avril 1971, New York, quartier de Little Italy. Un vieil homme traverse la rue pour se rendre sur le stand d'imprimeur. L'épicier remplit un sac de papier Kraft avec des oranges prélevées sur son étal. Le client est un habitué, alors le vendeur lui offre aussi une figue bien mûre. L'homme accepte le cadeau, sourit et se dirige vers la voiture où son fils l'attend. En traversant la rue, il observe et repère deux hommes armés. Il s'élance alors vers la voiture. Touché dans sa course, l'homme s'écroule. Les oranges roulent à terre. Son fils essaye de le défendre, mais son arme lui échappe des mains. Les tireurs s'enfuient. On a tiré sur Don Corleone. Nous sommes le 12 avril 1971 sur le tournage du Parrain. Francis Ford Coppola lance un coupé. Marlon Brando se relève sous les applaudissements des habitants du quartier. La star les salue d'une petite courbette. Il ne sait pas encore que son personnage va devenir mythique. Parmi la foule, il y a un journaliste du New York Times, Nicholas Spileggi. Dans son article intitulé « The Making of The Godfather, Sort of a Home Movie », le tournage du Parrain, une sorte de film amateur, publié le 15 août 1971, le journaliste raconte qu'au moment du tournage, un chef de la mafia new-yorkaise reçoit en audience, là, à quelques mètres, dans un café du quartier.
Le 12 avril à 11h, au moment où Brando se faisait tirer dessus sur Mott Street, Carlo Gambino, l'un des véritables parrains de New York, était assis au coin d'un café de Grand Street, sirotant un café noir dans un verre et tenant la cour sicilienne du XVIIIe siècle dans le New York du XXe siècle. Il était arrivé quelques instants plus tôt en compagnie de son frère Paul et de 5 gardes du corps. C'était sa coutume, ainsi que son devoir en tant que chef d'une famille mafieuse, d'entendre à intervalles réguliers les malheurs sans fin des racketeurs, des pères déshonorés et des bandes de maris expulsables. Ils étaient conduits devant lui, un par un, depuis la salle d'attente d'un restaurant situé de l'autre côté de la rue. Il était le dernier juge pour les personnes encore prêtes à accepter ses décisions comme des lois.
Si la caméra de Coppola filme Marlon Brando dans les rues de New York ce jour-là, on peut parler de petit miracle. Car le jeune réalisateur italo-américain qui vient d'avoir 32 ans a dû livrer de nombreuses batailles pour en arriver là. Pour comprendre, il faut remonter quelques années plus tôt, lorsqu'un écrivain américain, lui aussi d'origine italienne, Mario Puzo, se lamente sur les faibles ventes de ses romans. En 1965, New York, Mario Puzo, 45 ans, se prépare à un rendez-vous décisif. Un ami l'a mis en contact avec un prestigieux éditeur new-yorkais, J.P. Putzman Sons. Puzo a deux passions dans la vie, manger et jouer au jeu d'argent. Il accumule donc les kilos et les dettes, son dernier livre ne s'est pas bien vendu et ce père de famille s'est endetté de 20 000 dollars. Des bookmakers sont assez étrousses. Mais il a un projet. Un roman sur la mafia italienne, à New York, une émanation de Cosa Nostra. Bingo! Le projet séduit l'éditeur qui lui fait une avance de 5 000 dollars. Puzo claque tout très vite, dans les casinos de Las Vegas notamment. Mais ce n'est pas de l'argent complètement perdu. Dans ces lieux interlopes, il laisse traîner ses oreilles et interroge sans relâche pour glaner des informations et des anecdotes sur la mafia. Et très vite, il imagine une histoire. Celle de Vito Andolini, qui a fui la Sicile enfant pour échapper à un chef mafieux local qui a tué toute sa famille. Débarqué à New York, le jeune Vito, 10 ans, est rebaptisé par les agents d'Ellis Island, Vito Corleone, du nom de son village d'origine. Vito Corleone grimpe les échelons de la mafia de Little Italy et devient le parrain Don Vito Corleone. Dans la série de fiction The Offer, produite et diffusée sur Paramount+, et qui revient sur la genèse du parrain, Mario Puzo explique à sa femme l'histoire de son roman.
Elle parle de la famille d'un chef mafieux.
Ah.
Le fils aîné est une tête brûlée. Le fils cadet est un brave garçon, mais il est faible. Et le Benjamin, lui, est un héros de guerre médaillé qui ne veut pas être lié aux agissements criminels de sa famille.
Je vois.
Même le père, d'ailleurs, a de l'ambition pour son fils. Appelons-le Michael. Au lieu d'en faire un soldat ou un capot, il préfère qu'il se lance dans la politique pour devenir sénateur ou disons quelqu'un d'important. Mais jamais le destin ne laissera Michael échapper à la puissance de Don Vito Corleone.
Son manuscrit circule et une autre maison d'édition, Fawcett Books, achète les droits en 69 pour le format de poche. Cette fois, la somme que perçoit Mario Puzo est d'une autre dimension, 410 000 dollars, soit 3,5 millions de dollars d'aujourd'hui. Alors, sa vie bascule, plus de problèmes d'argent en perspective. Mais il est loin de se douter du destin de ses personnages, Don Vito Corleone, et de ses trois fils, Sonny, Fredo et Michael. Le 29 juin 1970, New York, Joseph Colombo, joufflu, trapu et dégarni, lance la journée de l'unité italo-américaine. 50 000 personnes se réunissent au Colombo Circle devant la statue de Christophe Colomb. Dans ce pays communautaire, les italo-américains veulent défendre leurs intérêts et stopper tous les clichés qui circulent sur eux. Et le plus tenace, ils seraient tous membres de la mafia. L'ironie, c'est que ce Joseph Colombo, à l'initiative de la Ligue italo-américaine, c'est justement l'un des boss de la mafia new-yorkaise. Mais quand un journaliste lui demande ses liens avec celle-ci, il répond « Mafia ? C'est quoi la mafia ? La mafia n'existe pas. Suis-je le chef d'une famille ? Oui. Ma femme, mes quatre fils et ma fille, ce sont eux ma famille. » Ce 29 juin, il réussit à réunir une plus grande famille encore avec des milliers de sympathisants, des membres du Congrès et des stars du show business. Devant la foule, Joseph Colombo livre un discours virulent contre le gouvernement, les médias, mais également le livre de Mario Puzo, le parrain. La scène est rejouée dans la série The Offer, diffusée sur Paramount+.
Et les ramassis de clichés comme ce livre sont une honte. Ils ne font qu'alimenter la haine que ressentent les gens de ce pays pour nous. Et je lis maintenant dans la presse qu'ils vont en faire un film. Ce livre grotesque n'est qu'un tissu de mensonges. Mario Puzo est un traître qui déshonore les siens. Moi, je dis assez, ça suffit les humiliations. Nous créons notre organisation, votre organisation. La Ligue des droits civiques italo-américains sera là pour vous défendre. À vos côtés, nous nous battrons contre la haine et les discriminations.
19 novembre 1970, Los Angeles, Hollywood. Al Rudy, producteur à la Paramount, est sur un gros coup. L'adaptation du Parrain au cinéma. Paramount, l'une des 8 majors hollywoodiennes, a racheté les droits du roman mais ne compte pas faire un film à gros budget. 2,5 millions de dollars au maximum. C'est pour cette raison que le confie à Al Rudy, 40 ans, pas très expérimenté, mais qui a fait ses preuves sur un premier film avec Robert Redford, L'ultime randonnée. Il a terminé le tournage dans les délais, sans dépassement de budget, chose rare à Hollywood. Mais les refus des réalisateurs s'enchaînent. Sergio Leone, Arthur Penn, Peter Yates ou Costa Gavras, l'histoire n'intéresse pas. Et le petit budget est frais. Un nom vient alors aux oreilles d'Al Rudy, Francis Ford Coppola, qui a déjà réalisé des films, écrit des scénarios, et puis il est italo-américain, légitime pour le Parrain. Coppola est jeune, 31 ans, peu d'expérience. Mais c'est aussi un avantage, il sera moins cher, plus malléable, l'idéal pour un film à petit budget. Et puis, argumentail, le Paramount sait que Coppola et son associé, George Lucas, sont très endettés avec leur société Zetrop Studios, au bord de la faillite même. Bref, le Parrain est une offre que Coppola ne peut pas refuser. Problème toutefois. Coppola a lu le roman de Mario Puzo, mais le livre lui est tombé des mains. Roman de gare, juge-t-il. Cheap, vulgaire. De l'argent, de la violence, du sexe. Alors, Francis, fils du compositeur et musicien Carmine Coppola, confie à son père « Paramount veut que je mette en scène cette merde. Moi, je veux réaliser des films d'auteur. » Finalement, c'est son ami et associé George Lucas, qui n'a pas encore créé Star Wars, qui l'incite à accepter ce film de commande. Coppola l'explique dans le grand entretien sur France Inter, le 4 avril 2012.
George Lucas m'a dit
«
Mais t'es fou. Et à Zoetrope, on n'a pas un rond. Le shérif de la ville va mettre des chaînes, poser des chaînes sur les portails de notre studio parce qu'on n'a pas payé les factures. Et on t'offre de faire ce film, Le Parrain. Mais fais-le. Prends le fric. Et après, tu pourras faire ce que tu veux. »
Puzo et Coppola, deux hommes aux univers complètement différents, commencent alors à travailler sur une adaptation. Si les deux sont d'origine italienne, Puzo, c'est l'écrivain qui traîne dans les casinos. Coppola, c'est l'intello qui sort de l'école de cinéma de la côte ouest. Le mariage de la carpe et du lapin. Très vite, Coppola s'oppose à l'idée de la Paramount. Pour faire un film pas cher, autant transposer cet univers de la mafia dans l'époque contemporaine, dans les années 70, et filmer tout ça en studio ou à la rigueur, à Kansas City ou Saint-Louis, bien moins cher que New York. Et pour Coppola, c'est deux fois non. Il faut garder le cadre de l'après-Seconde Guerre mondiale et il faut filmer à New York, en décor naturel. Face à cette insistance, la Paramount accède finalement à ses demandes. Première victoire pour Coppola, mais ce n'est que le début d'une longue bataille. Car il y a un autre problème, le casting. Coppola veut Marlon Brando dans le rôle de Don Vito Corleone. Brando, c'est une star, mais une star déchue. Ses 5 derniers films ont été des flops. Et puis tout Hollywood le sait, il est ingérable sur un tournage. Il n'apprend pas son texte et peut planter. Un tournage entier. Trop risqué. D'autres noms sont alors évoqués. Ernest Borgnine, Carlo Ponti, Laurence Olivier. Lors d'une réunion de production, le président de la Paramount douche les espoirs de Coppola. Le réalisateur raconte la suite de la scène sur France Inter.
Et au final, le président de Paramount me regarde et il dit « Francis, en tant que président de Paramount Pictures, je vous le dis, Marlon Brando jamais n'apparaîtra dans ce film et je vous interdis de répéter son nom en ma présence. » Quand j'ai entendu ça, j'ai pris ça pour une blague et je suis tombé de ma chaise, littéralement, et je me suis comme si j'étais mort. Ça les a fait rigoler.
Oui, les producteurs rigolent et finissent par accepter Brando à 3 conditions, quasiment synonymes de refus. 1. L'acteur devra provisionner une somme $1 million pour couvrir les éventuels retards et annulations de tournage qu'il provoquerait. 2. Il doit accepter d'être payé au minimum syndical. 3. Il doit faire des essais caméra. Et c'est peut-être la condition la plus humiliante pour cette star hollywoodienne. Coppola accepte et décroche un rendez-vous chez l'acteur de 46 ans. Il propose à Marlon Brando de faire quelques improvisations, ce qui est en fait un test de caméra déguisé. Coppola part alors en équipe réduite à San Francisco avec deux assistants, une caméra et une consigne. Pas un bruit, laissez Brando agir, comportez-vous comme des ninjas. Accueilli par la gouvernante, Coppola et son équipe installent la caméra dans le salon. Le réalisateur a apporté de la charcuterie, du fromage et un journal italien. Ambiance. Soudain, Brando entre dans la pièce, vêtu d'une robe de chambre japonaise. Il observe le dispositif et les accessoires, noue ses cheveux blonds et les noircit avec du cirage. Il enfile une chemise et une veste et fourre des mouchoirs dans sa bouche pour gonfler ses joues et ressembler à un bulldog, selon ses propres termes. Brando se met à marmonner, Don Vito Corleone est né sous la caméra de Coppola.
You found paradise in America, but now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. You don't ask for respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather.
Sceptiques à la première minute de visionnage, les producteurs de la Paramount sont finalement bluffés par la performance de Brando. Et un nouveau combat gagné par Coppola. Mais les ennuis vont arriver. En provenance de la côte Est, avec la fameuse Ligue Italo-Américaine, celle menée par Joseph Colombo, le chef mafieux, qui dénonce le livre de Mario Puzo. À New York, la préparation du film est très compliquée. Après avoir obtenu certains accords pour des lieux de tournage, les portes se referment brutalement partout dans la communauté italo-américaine. Le producteur Al Rudi reçoit des menaces de mort. Il est suivi dans la rue, les vitres de sa voiture sont mitraillées, les hôtels où séjournent les producteurs sont victimes d'alertes à la bombe. Bob Evans, producteur à la Paramount, lui reçoit un appel menaçant. Il suggère alors de s'adresser à Al Rudi en charge du projet. Et la voix lui répond: si on veut tuer un serpent, le seul moyen de le faire est de commencer par la tête. Enfin, la Ligue de défense des intérêts italo-américains organise des manifestations contre le parrain. Tous les lieux de tournage potentiels affichent un sticker qui soutient cette ligue. Les portes se referment pour toutes les équipes du film. Le journaliste Lucien Baudard raconte sur France Inter, le 8 août 1972, comment le producteur Al Rudi s'est décidé finalement à se rapprocher de Joe Colombo pour régler ce problème.
D'abord, Monsieur Joe Colombo a persuadé Monsieur Al Rudi de traiter, parce que Monsieur Al Rudi commençait à avoir des inconvénients, des ennuis, des menaces au téléphone, puis des gens qui tiraient au revolver sur sa voiture, et puis toutes sortes de lettres de sénateurs, de députés, de gens importants qui disaient « Vous ne pouvez pas faire un film sur la mafia parce que vous attaquez les Italo-Américains ». Ensuite, ils avaient décidé de faire le film à New York. Et il fallait faire le film dans la rue, dans les quartiers italiens. Il leur fallait 120, 150 endroits de tournage. Il leur fallait des gueules, il leur fallait des tueurs, il leur fallait tout. Il leur fallait la coopération de la population. Or ça, dès qu'ils sont arrivés à New York, c'était zéro. Non seulement c'était zéro, mais les gens avaient la trouille. Le film n'était pas tournable, si bien que Al Rudi s'est trouvé dans la position où je tourne mon film. Et alors pour tourner ce film, il fallait qu'il s'adresse à Monsieur Joe Colombo.
Le producteur Al Rudi l'a bien compris, le parrain ne pourra pas se faire sans l'aval de la mafia, la vraie. Il va donc falloir rencontrer ce Don Joseph Colombo.
I have but one heart, this heart I bring you. I have but one heart to share with you. I have but one dream that I can cling to. You are the one dream I pray comes true. My darling, until I saw you, I never felt this way. And nobody else before you ever has heard me say, you are my one love. My life I live for you. I have but one heart. darling, until I saw you. I never felt this way, and nobody else before you ever has heard me say, you are my one love, my life I live for you. I have but one heart to give to you.
Aujourd'hui, le parrain.
France Inter.
Tu passes du temps avec ta famille?
Bien sûr, parrain.
Très bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme.
Affaires sensibles.
25 février 1971, New York. Le producteur du parrain, Al Rudy, monte dans une limousine avec deux hommes inconnus qui le mènent jusqu'à Joe Colombo. Al Rudy débarque à l'hôtel Park Sheraton, où il imagine une réunion en petit comité. Mais surprise, le producteur de la Paramount doit faire face à 600 membres de la Ligue italo-américaine hostile au film. Mais Al Rudy ne se dégonfle pas et assure que les italo-américains ne seront pas caricaturés. Et puis, ajoute-t-il, tout le monde en prend pour son grade, les Irlandais, les Wasps et les Juifs corrompus dans le film. Le producteur décroche alors un deuxième entretien, avec cette fois Joe Colombo, en personne et en petit comité. Il raconte cette nouvelle rencontre dans le documentaire « The Godfather and the Mob, le parrain et la mafia », réalisé en 2006 par Simon Georges. La scène se déroule dans un bureau avec Joe Colombo et ses deux hommes de main.
J'ai dit, vous êtes le seul, Joe, à poser les yeux sur ce script. Personne ne l'a vu. Je lui donne les 55 pages, il met ses lunettes et je me rends compte en le regardant qu'il n'y a aucune chance, mais vraiment aucune, qu'il reste assis à lire autant de pages. Il lance alors, « Oh mon Dieu, ses lunettes, je ne peux pas porter ces putains de verres. »
Joe Colombo envoie alors le scénario à l'un de ses porte-flingues. « Tiens, toi, lis-le. Moi, non, non. Tu lui files à lui. » Lui, c'est le deuxième homme de main à qui on refile le truc comme une patate chaude, voire une grenade découpillée. Joe Colombo cesse la plaisanterie et lance alors à ses lieutenants, en désignant Al Rudy, « Bon, on fait confiance à ce type ou non ?»« Ouais, ouais, on l'aime bien. Alors c'est ok, dis-le. » Al Rudy a promis que le mot « mafia » ne serait pas utilisé dans le film, ce qui manifestement a convaincu Joseph Colombo. Déterminant même. Mais ce que le mafieux ne sait pas, comme il n'a pas eu la patience de lire le scénario, c'est que le mot « mafia » est prononcé deux fois dans le film. Suite à cette négociation, une conférence de presse s'est organisée par Joe Colombo. Al Rudy s'est fait piéger. Il imaginait un accord secret. Mais il fait la une du New York Times. Stupeur. Hollywood passe un accord avec la mafia. Et le cours de la société mère de Paramount dégringole en bourse. Al Rudy est écarté, puis finalement réintégré. Le film se fera, coûte que coûte, et c'est le cas de dire. Il n'empêche qu'après cet accord avec la mafia, toutes les portes s'ouvrent, comme par magie. On trouve le lieu pour la maison des mariages et plein d'Italo-Américains volontaires pour la figuration. En contrepartie, Lenny Montana, ex-lutteur d'un mètre 98, décroche un rôle, celui de Luca Brasi, homme de main de Don Corleone. On le voit dans la scène d'introduction répéter ce qu'il va dire au parrain dans son bureau. Mais cet auteur est tellement stressé qu'il joue mal la comédie. Alors Coppola fait de ce handicap une force. Oui, il le filme en train de répéter sa réplique, la réplique qu'il doit le donner au parrain.
Don Corleone, je vous remercie de m'avoir invité pour le mariage de votre fille. Je prie le ciel pour que son premier enfant soit un garçon.
Michael, cet homme là-bas, regarde, il parle tout seul. Il a une tête à faire peur aux gens.
Bon, Coppola s'adapte et improvise, comme lorsqu'il laisse un chaton dans les bras de Marlon Brando lors de la scène d'introduction devenue mythique, avec ce long dézoom sur un personnage secondaire du film, le croque-mort Buonasera, qui commence son monologue par « I believe in America ».
« I believe in America ».
J'ai confiance en l'Amérique.
« America has made my fortune ».
L'Amérique, elle a fait ma fortune.
« And I raised my daughter in the American fashion ».
J'ai élevé ma fille comme une véritable Américaine.
Dans cette longue scène d'exposition, Coppola transporte les spectateurs dans les deux mondes du parrain. D'abord, celui de l'ombre et du pouvoir, où Don Vito Corleone reçoit dans son bureau et règle tous les problèmes. Un croque-mort veut se venger des agresseurs de sa fille, ce sera fait. Jodie Fontaine, sorte de double de Frank Sinatra, veut un rôle dans un film, il l'aura. Il suffit pour cela de prêter allégeance et Don Vito Corleone s'occupe de tout. Et il délègue beaucoup à son consigliere, Tom Hagen, son homme à tout faire, incarné par Robert Duvall, et à ses lieutenants, Peter Clemenza et Salvador Stesio. Le deuxième monde du parrain, c'est celui de la lumière, des apparences. Don Vito marie sa fille Connie, jouée par Talia Shire, la sœur de Francis Ford Coppola, Carlo Rizzi, campée par Gianni Russo, acteur qui se vante d'une proximité avec la mafia dans la vie réelle. Et puis il y a les fils, bien sûr, Sonny, incarné par James Caan, et Fredo, interprété par John Cazale. Coppola confiera à propos du film « J'ai toujours pensé le parrain comme l'histoire d'un roi et de ses trois fils. Le plus âgé a reçu la passion et l'agressivité, Sonny. Le deuxième, sa douceur et ses gestes enfantins, Fredo. Le troisième, sa ruse et son calme, Michael. Au milieu des danses à base de tarentelles siciliennes, il y a un couple qui détonne. Diane Keaton, alias Kay Adams, semble étrangère à ce milieu italo-américain. Elle harcèle son petit ami de questions. Le troisième fils donc, Michael Corleone, le calme rusé.
Et pourquoi a-t-il accepté ?
Mon père lui a fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser.
Qu'est-ce que c'était ?
Luca lui braquait un revolver sur la tempe. Et mon père a dit au type que ce serait sa cervelle ou sa signature qui paraferait le contrat. Ça, c'est ma famille, Kay. C'est pas moi.
Michael Corleone, toute une histoire de casting. La production rêvait d'un Robert Redford, d'un Jack Nicholson ou d'un Ryan O'Neill. Coppola ne voulait qu'Al Pacino, un acteur issu de la scène théâtrale new-yorkaise qui s'est fait remarquer dans le film Panic à Needle Park. Le cinéaste le trouve parfait. La Paramount le juge petit et les premiers rushs sont très décevants. C'est à ce moment du tournage qu'arrive l'une des scènes majeures du film. Michael Corleone, fils destiné à suivre un parcours loin de la mafia, se dévoue pour aller venger son père, victime d'une tentative d'assassinat. C'est la scène du restaurant. Il a face à lui un chef mafieux, Virgil Solozzo, et un policier corrompu. Ce jour-là, Michael Corleone est sur le point de basculer dans le crime. Al Pacino, lui, est sur le point de se faire virer par la Paramount. Francis Coppola commente cette scène.
I look at this scene as the scene that really probably.
Pour moi, cette scène restera celle qui m'a permis de sauver ma tête en tant que réalisateur sur le film.
It won a lot of admiration for Al, who was very much.
Par ailleurs, elle a suscité beaucoup d'admiration pour Al Pacino, dont le talent était mis en doute par le studio. Dans cette scène, Al a montré ce qu'il savait faire. Cette scène prouvait qu'on savait quand même ce qu'on faisait.
Quand dites ça médio, il cambia di fa un di un yun. E mettiamo tutto a posto. Steve sta lì, siete va finiti.
Michael Corleone a tué, Al Pacino a livré une prestation exceptionnelle. Mais ce n'est pas pour autant que les producteurs laissent Coppola tranquille. Ils jugent le film pas assez violent. Alors, ils suggèrent une scène de dispute conjugale entre la fille Corleone et son mari. Extrait.
Ramasse-moi ça !
Attends, je te...
Allez, viens ramasser !
Non !
Viens ramasser ça, petite salope ! Ramasse-moi ça ! Allez ! Ramasse ça ! Viens ici ! Allez, oui ! Tue-moi ! Assassine-moi ! Fais comme ton père ! Tous les Corleone, c'est des assassins ! Allez !
Je vais te...
Allez, viens, tue-moi ! Salope ! Allez, fous le camp ici !
Je te déteste !
C'est moi qui vais te tuer maintenant !
Après cette dispute, Sonny, le fils aîné des Corleone, est foudrage. Il part seul, sans protection, venger sa sœur. Il ne sait pas que c'est un guet-apens d'une autre famille mafieuse. Dans ses notes, Coppola évoque une tuerie d'une exagération incroyable. Arrivé à hauteur d'un péage, Sonny Corleone se fait mitrailler de tous les côtés. Ce jour-là, l'acteur James Caan porte 110 charges explosives sur son corps pour faire éclater de petits sachets de faux sang. Cette seule scène, tournée en une seule prise, coûte plus de 100 000 dollars. Résultat, une fusillade devenue mythique. Dès le début du tournage, Coppola a bataillé avec les producteurs qui trouvaient la lumière du film trop sombre. Bénédiction pour le réalisateur, il obtient quelques jours après le début des prises de vue l'Oscar du meilleur scénariste pour Patton. Mais Coppola doit aussi lutter au sein même de son équipe. Certains voudraient prendre sa place et pointent son inexpérience. Rappelons effectivement qu'il n'a que 32 ans. Mais Coppola ne va pas hésiter à contre-attaquer. Il l'explique dans le grand entretien sur France Inter.
J'avais au moins un peu de sens politique et je pouvais au moins me rendre compte qu'il y avait un groupe qui se formait contre moi. Et il y avait des gens plus sympas avec moi qui disaient, attention, ils vont te virer. Mais je me suis rendu compte de quelque chose de très important. On vous vire jamais au milieu d'une semaine de tournage. Ils attendent le week-end. Vous avez fini vendredi, le nouveau réalisateur arrive et il commence lundi. Dès que je me suis rendu compte de ça, moi, j'ai viré les 12 personnes. Le monteur, l'assistant, tous ces gens-là, je les ai virés, moi. Ça les a complètement fait flipper, parce que c'était moi le réalisateur. J'avais le droit de les virer, et je les virais.
28 juin 1971, New York. Francis Ford Coppola est toujours en poste, et le tournage du Parrain se poursuit. Au même moment, Joseph Colombo organise à Columbus Circle la seconde journée de l'unité italo-américaine. Lorsqu'il monte à la tribune, un jeune noir américain de 25 ans, Jerome Johnson, s'approche de lui. Il a une carte de presse et du matériel de photographie. Mais c'est un déguisement. Il sort un pistolet et tire à 3 reprises sur Joe Colombo. Le faux photographe est à son tour abattu. Le producteur Al Rudy raconte la scène en octobre 72 au micro de France Inter.
Et le soir à la télé, on a annoncé Joe Colombo a été blessé cette nuit au Columbus Circle. Et ironie du sort, au même moment, deux rues plus loin, on tournait un règlement de compte pour le film qu'il a aidé à faire. Et lorsque Joe Colombo a été blessé, toute sa famille à Brooklyn s'est lancée à corps perdu dans une véritable guerre des gangs, exactement comme dans le film. Et à l'heure qu'il est, je peux dire qu'environ une quinzaine de personnes parmi les plus hauts placés de l'organisation du crime à New York ont été tuées.
Juillet 1971, Joseph Colombo est à l'hôpital. Il ne se remettra jamais vraiment de ses blessures. Paralysé, il ne peut quasiment plus parler. Francis Ford Coppola lui a gagné de nouveaux combats contre la production. Nino Rota composera la musique du film et il y aura bien un tournage en Sicile. Ces scènes tournées sur l'île italienne racontent l'exil de Michael Corleone qui se cache après le double meurtre du restaurant. Le moment où il bascule dans le crime en tuant un chef mafieux, Virgil Solozzo, ainsi qu'un policier corrompu. Problème, Al Pacino ne parle pas un mot d'italien. Et Coppola tient absolument à inclure cette langue dans son film. Alors, Al Pacino parle en anglais et ses hommes de main traduisent. Ici, il demande la main de la fille d'un aubergiste.
Je n'ai voulu manquer de respect ni à vous ni à votre famille.
Je ne voulais manquer de respect ni à elle ni à votre fille. Oui, qui est-ce ? Et qui parle de mes filles ?
Je suis américain. Je me cache en Sicile.
Un américain qui s'est nascosto en Sicile.
Je m'appelle Michael Corleone.
Il s'appelle Michael Corleone.
Il y a pas mal de gens qui paieraient une fortune pour cette information.
Ci sarebbe parecchia gente che pagherebbe parecchie picciole per un'informazione così.
Mais dans ce cas, votre fille perdrait un père.
Ma allora vostra figlia perderebbe un padre.
Au lieu de gagner un mari.
Arrivé à l'étape du montage, Francis Coppola se rend compte d'un manque sérieux. Il n'existe aucune scène qui met face à face Marlon Brando et Al Pacino, c'est-à-dire Vito Corleone et son fils Michael. Il raconte cet épisode dans la version commentée du film.
But after the movie was shot, As is so often the case.
Mais une fois le tournage fini, comme ça arrive souvent, on a estimé qu'on avait laissé passer quelque chose en ne filmant pas une scène où ils sont en tête à tête. J'ai dû être trop occupé à m'assurer qu'ils soient dans le film pour penser à ça, sans doute.
I went to my friend Bob Town,
mais pensant que l'idée était bonne, je suis allé voir mon ami Bob Town pour lui demander de m'écrire une scène de ce genre. Et il a écrit cette scène.
I never wanted this for you.
J'ai jamais voulu ça pour toi.
I work my whole life. I don't apologize to take care of my family. And I refused to be a fool. Dancing on the string, held by all those...
J'ai travaillé toute ma vie et j'en suis fier à prendre soin de ma famille. J'ai toujours refusé d'être un pantin, de danser au bout d'un fil tiré par des gros bonnets.
Le 22 mars 1972, le film sort aux États-Unis et c'est un succès immédiat. Les salles sont combles, les files d'attente immenses. Les cinémas augmentent le prix des billets et certains en achètent à la première heure pour les revendre plus cher. Mieux encore, chaque sortie du parrain dans un nouveau pays fait événement. En France, il faudra attendre le 18 octobre. C'est également un succès populaire, mais dans l'émission Le Masque et la Plume sur France Inter, les critiques fusent. Jean-Louis Bory est déchaîné.
Bien, Bory qui n'a rien dit.
Oh, ça sort très rapide. Pour moi, c'est pas de la crotte de bique, c'est ce que j'appelle de la bouse de mammouth. Parce que c'est une énorme chose qui dure 3 heures. Sous prétexte que les personnages sont italiens et que ça saigne beaucoup, vous vous tapez 3 heures de sauce tomate. Moi j'ai l'estomac fragile et ce genre de cinéma je ne le supporte pas, c'est tout.
Le grand snobisme maintenant c'est de dire n'allez pas voir ce film parce qu'il a du succès. Non, c'est un film agréable à voir, ne croyez pas qu'il
est du sang partout. C'est pas agréable à voir du tout. Et Marlon Brando, n'en déplaise à Georges Charançon, Marlon Brando est ridicule.
Mais non, pas du tout.
Il promet le prognatisme de gargouille désabusé pendant 3 heures, mais la paupière tombante, et il meurt dans des plans de sauce tomate en jouant à l'art d'être grand-père. C'est ridicule.
Live, the 45th annual Academy Awards presentation.
27 mars 1973, Californie, Hollywood, Dorothy Chandler Pavillon. Ce soir-là, c'est la cérémonie des Oscars. L'équipe du parrain arrive en force avec le plus grand nombre de nominations, 10. La moisson est vraiment belle. Meilleur film, meilleure adaptation et meilleur acteur pour Marlon Brando. Mais la star refuse l'Oscar et envoie à sa place une jeune actrice amérindienne pour protester contre les discriminations faites à tous les Amérindiens aux États-Unis. Et l'aventure du parrain ne s'arrête pas là. Il y aura 2 suites sur le grand écran. Le parrain 2 en 1974 et le 3 en 1990. Mais cette œuvre culte va aussi avoir une influence dans la vie réelle. La mafia, qui s'était battue contre le tournage du parrain, adore ce film au point de copier les répliques et les habitudes de la famille Corleone, devenue l'archétype de la famille mafieuse. Léo Luca Bagarella, né à Corleone, devenu capo di tutti capi, chef de tous les chefs de la Cosa Nostra, de 1993 à 1995, s'est marié sur la musique du parrain. Aujourd'hui, le parrain, notre invité Frédéric Foubert, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au magazine Première et co-auteur de l'ouvrage Les Sopranos, une Amérique désenchantée, livre publié en 2017 aux presses universitaires de France. Bon, j'ai l'impression, en racontant cette histoire du parrain, que ce film est arrivé comme un enfant non désiré.
Oui, d'une certaine manière, il a été accouché dans la douleur, en tout cas, effectivement. Et c'est peut-être ça aussi qui fascine autant dans l'histoire du parrain. C'est voilà comment on fabrique un chef-d'œuvre, on bricole un chef-d'œuvre d'une certaine manière, avec des circonstances extrêmement compliquées, des acteurs refusés par les producteurs, imposés aux forceps. Voilà, les chefs-d'œuvre, sont pas, n'est-ce pas, directement de l'esprit du créateur, parfois avec des fortunes diverses et des processus très compliqués.
Vous dites chef-d'œuvre, vous l'avez dit 2 fois, donc vous le pensez.
Oui, je pense que c'est un chef-d'œuvre du cinéma.
Et pourquoi ? Qu'est-ce qui fait de ce film un chef-d'œuvre ?
Ce qui fait de ce film un chef-d'œuvre, je pense que c'est une des expressions les plus limpides du fait que le divertissement peut se marier avec la voix intime très personnelle d'un cinéaste. C'est-à-dire que Coppola arrive à être, à faire un film à la première personne, à parler d'une expérience intime, et il le fait dans le cadre d'un film de 3 heures qui passionne les foules avec, voilà, des rebondissements, des meurtres, de la violence. Le cinéma hollywoodien dans toute sa splendeur. Et le cinéma comme art de l'intimité aussi, d'une certaine manière. Les deux sont mêlés à la perfection.
Donc il y a trois parrains, le parrain 1, le parrain 2, le parrain 3. Quel est votre préféré ?
Ah, ça c'est, c'est l'éternel débat cinéphile. Est-ce que tu préfères le parrain 1 ou le parrain 2 ? Alors le 3 est un peu à part, hein. C'est vraiment les plus romantiques des fans des Corleone, les plus sentimentaux qui préfèrent le 3. Le 1, on vient d'en parler, le fait qu'il ait été fabriqué de manière aussi douloureuse lui donne peut-être plus de poids. Et puis il y a Brando dans le 1. Et Coppola disait que les deux premiers parrains, on peut les regarder comme les deux tomes d'un même livre, en fait. C'est-à-dire que c'est une manière de ne pas répondre à la question, de pas choisir entre les deux, mais c'est comme voilà, les deux volumes d'une même histoire.
Il y a eu un projet d'un parrain 4.
Oui, c'est un serpent de mer hollywoodien, le parrain 4. Dans les années 90, il était question de poursuivre cette saga. Alors Andy Garcia, qui était un des acteurs du parrain 3, avait très envie que ça se fasse, parce que ça voulait dire que c'était son heure, qu'il pourrait être le héros du parrain 4. Ça s'est pas fait. Déjà, le parrain 3, Coppola avait longtemps dit qu'il le ferait jamais. Il a fini par le faire. Le parrain 4, il en a été question. Puis Mario Puzo est mort, et finalement... cette histoire, c'est fini, mais peut-être que la Paramount, un jour, aura envie de faire revivre les Corleone à l'écran. Ça m'étonnerait qu'ils résistent à ça.
Alors, les Corleone, je rappelle que Corleone est une ville du centre de la Sicile, et que dans les années 80, les Corleonesi se sont opposés aux Palermitans, donc deux mafias qui sont opposées, qui ont déclenché presque une guerre civile. Il y avait des morts dans les rues, les Siciliens s'en souviennent encore. Francis Ford Coppola est de racine italienne, il est italo-américain. Il a voulu faire un portrait de la communauté italo-américaine, justement.
Oui, oui. Alors c'est ce que les producteurs étaient venus chercher Coppola parce qu'il avait un nom italo-américain et d'une certaine manière, ils pensaient que ça les protégeait, voilà, des accusations de caricature qu'on pourrait faire. Robert Evans, le directeur de la production de la Paramount, disait de manière un peu vulgaire et cynique, il faut que ce film sente les spaghettis. Alors, c'est comme ça que lui le disait. Et Coppola, on a profité de cette histoire pour exprimer l'identité italo-américaine, ce qui était nouveau parce que finalement il n'y avait pas de regard, il y avait des regards sur la communauté italo-américaine, mais il n'y avait pas de regard depuis la communauté italo-américaine. C'est le début des années 70, des voix identitaires, communautaires commencent à s'exprimer dans le cinéma américain. Il y a un cinéma afro-américain qui commence à se développer et aussi un cinéma italo-américain qui lui va avoir un succès phénoménal avec Coppola, Scorsese et voilà toute cette génération là. Et effectivement, au-delà de la mafia, c'est une expérience italo-américaine que raconte Coppola dans ce film.
Et d'ailleurs, ça se joue aussi au niveau des acteurs, Al Pacino, Robert De Niro, qui n'est pas dans le film, qui est aussi italo-américain. La communauté italo-américaine est prégnante dans le cinéma américain.
Oui, oui, et puis cette passation de pouvoir qu'on observe à l'écran entre Vito Corleone et ses fils, finalement, elle se rejoue, elle se double au générique de ses films, parce que Marlon Brando, qui est considéré un peu comme le parrain des acteurs, va voir ses héritiers se bousculer pour prendre sa succession. Donc il y a Al Pacino, De Niro qui arrive dans le film d'après, et cette génération-là d'Italo-Américains, effectivement, ils veulent tous la couronne de Brando.
Alors c'est à la fois une tragédie grecque, le parrain, et un drame shakespearien. Bon, les deux sont liés de toute façon historiquement. Mais on est loin du film de commande petit budget qu'avait envisagé la Paramount au début. Alors, Michel Simon, sur France Inter, le 7 septembre 1975, dans le fameux Masque et la Plume, explique comment Coppola fait justement un film d'auteur avec les moyens d'un studio.
Coppola, c'est unique peut-être dans l'histoire du cinéma, a réussi à utiliser le système hollywoodien à son avantage. C'est-à-dire que Coppola n'est pas du tout ce que l'on croit. C'est un homme qui n'a jamais réussi un succès commercial de sa vie. Et puis un jour, il lui est arrivé une chance inouïe, il a fait Le Parrain. Et maintenant, avec Le Parrain 2, il a fait un film extraordinairement personnel en utilisant le titre du parrain, en utilisant l'argent de la Paramount. Et il est arrivé à faire un film qu'on ne lui aurait laissé jamais faire s'il a été invité à metteur en scène, inconnu, etc. C'est-à-dire qu'il a fait un film austère de réflexion. Comment ?
Vous êtes tous d'accord ?
Oui.
Même moi qui ai détesté.
Oui, Nicolas aussi,
même,
oui.
Même Boris.
J'ai détesté Parrain 1 et j'ai trouvé celui-là beaucoup plus intéressant, je veux dire, dans la mesure où justement, je suis avec l'avis de Michel Simon,
dans la mesure
où... Pourquoi tu ne dis pas que tu es de mon avis pour une fois?
Non, Georges, mais à 200 kilomètres.
Sans moi, vous n'en parliez pas. C'est vrai. Il y avait un silence de mort.
Il est en tête de notre liste.
C'était le film le plus important.
C'était en tête de notre liste.
Je vous ai senti en tremblant dans votre culotte.
Charon, d'abord, premièrement.
Pardon, dans votre bikini, excusez-moi.
Concernant Michel Simon, rappelons qu'il nous a quittés récemment. C'était un grand critique de cinéma, notamment un grand spécialiste de Stanley Kubrick, avec qui il a commis un livre d'entretien absolument formidable. C'est quoi le nouvel Hollywood et en quoi Le Parrain en fait-il partie, s'il en fait partie, à votre avis?
Le nouvel Hollywood, c'est la nouvelle vague américaine des années 70, quand une nouvelle génération de cinéastes prend le pouvoir et le système des studios était très déclinant dans les années 60 et une nouvelle génération de cinéastes arrive et va réussir à imposer ses visions et à revivifier le cinéma américain. Coppola est un des chefs de file de ce mouvement. Suivront Scorsese, Spielberg, William Friedkin. Le Parrain en fait partie dans le sens où c'est effectivement, comme le disait Michel Simon dans l'extrait, l'expression voilà, personnelle d'un auteur avec les moyens des studios hollywoodiens. Et en même temps, c'est un peu différent parce que le tout début du nouvel Hollywood, c'est Easy Rider, c'est le lauréat, c'est-à-dire cheveux longs, rock'n'roll, expérience psychédélique, les drogues.
Et Dustin Hoffman.
Et Dustin Hoffman, voilà. Et Dustin Hoffman. Donc, c'est vraiment une génération de 68, quoi. Mm. Et Le Parrain, c'est quand même un film qui tranche avec ça parce que c'est un film avec des cadres extrêmement composés, le clair-obscur, film d'époque qui se passe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et il tranche un peu avec les films qui sont à la mode à l'époque, à la fin des années 60, début des années 70.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Le Parrain, notre invité Frédéric Foubert. Quel est votre regard sur l'œuvre de Coppola? Il y a Apocalypse Now également et d'autres films.
Coppola, c'est un cinéaste. Il fait 4 films dans les années 70, Le Parrain et sa suite, Conversation secrète, Apocalypse Now, 2 Palmes d'Or, 2 Oscars du meilleur film. Tout début des années 80, Coup de cœur, qui est un film mal aimé, qui va provoquer un petit peu sa chute. Un immense échec critique et commercial. Mais bon, il a quand même été un titan hollywoodien dans les années 70. Ensuite, il a, tout au long de sa carrière, et jusqu'à aujourd'hui, là, il tourne un film intitulé Mégalopolis, qui est un de ses grands rêves de cinéma. Il poursuit cette articulation voilà, entre une quête personnelle et la puissance des images.
Est-ce que Le Parrain, selon vous, est le meilleur film de Coppola, sa plus grande réussite?
C'est ouais, pareil, c'est un débat qui pourrait durer toute la nuit. Ça, et c'est sa plus grande réussite et c'est sa malédiction d'une certaine manière aussi, parce qu'il aura été toute sa vie rattrapé par Le Parrain, par ses
Bien
suites, par le fait qu'on associe ce film à lui, alors que c'était tout ce qu'il détestait. Lui, il voulait faire des petits films d'auteur, voilà, influencé par Fellini, par la nouvelle vague française, et il se retrouve à la tête d'une ce qu'on appelle maintenant des franchises, ce que lui voit comme une saga. Et c'est à la fois sa malédiction et un de ses plus grands accomplissements.
Voilà, et on a écouté plusieurs extraits du Masque et la Plume. C'était il y a plusieurs décennies. C'est toujours là, le Masque et la Plume, à 20h sur France Inter, une institution. Frédéric Foubert, merci infiniment.
Merci à vous.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Le Parrain. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Mathieu Bérini.